Europe Midi, Sébastien Krebs.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accompagner pour Europe Midi. C'est parti, les midi et demi. Tué par balle à 14 ans, blessé à 8 ans. Des ados, des enfants, victimes de la guerre des territoires à Marseille. Coup de feu au pied d'une cité, deux suspects s'enfuient à moto. Nos dernières informations dès le début d'Europe Midi. L'accalmie dans le Var et l'espoir très prudent des pompiers. Le vent a faibli et le feu n'a plus progressé ces dernières heures. Mais il n'est toujours pas maîtrisé, il faut rester extrêmement attentif. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur l'ampleur des dégâts sur la faune et sur la flore. Dans cette réserve naturelle des Maures qui abrite près de 250 espèces protégées avec les deux invités d'Europe Midi juste après le journal. Au sommaire aussi un bracelet en guise de passe sanitaire pour entrer dans les bars et dans les restaurants. L'expérience est menée en Gironde, on ira voir comment ça marche. La politique avec le début des journées d'été des écologistes. Et puis le foot, la toute nouvelle Ligue Europa Conférence. Nouvelle Coupe d'Europe, Rennes y fait son entrée ce soir. Le temps, toujours du soleil dans le sud-est. Des nuages ailleurs, avec même un peu de pluie sur la Bretagne et sur la Normandie. Météo complète dans 10 minutes avec Marlène Duret.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Des tirs en plein Marseille hier soir et des enfants au sol. L'âge des victimes est glaçant. Un adolescent de 14 ans tué par balle. Deux autres mineurs blessés. Le plus jeune n'a que 8 ans. Ça s'est passé dans la cité des Marronniers, dans le 14e arrondissement de la ville. Bonjour Gladys Laffitte.
Bonjour.
Que sait-on des circonstances de ce meurtre ?
Eh bien, on sait que ça s'est passé hier soir vers 22h dans un quartier très défavorisé de Marseille. Deux adolescents de 14 ans ont été victimes de tirs de la part du passager d'un scooter qui s'est arrêté à leur hauteur en pleine rue devant un poste de guet d'un point de deal. Des tirs au fusil d'assaut, une arme de type Kalachnikov, 8 munitions ont été retrouvées sur place. Et deux heures plus tard, l'un des deux jeunes meurt des suites de ses blessures à l'hôpital. L'autre est blessé par des impacts de balles à la jambe, mais ses jours ne sont pas en danger. Et vous le disiez donc, un enfant de 8 ans qui se trouvait à proximité a lui aussi été blessé à la tête, mais beaucoup plus légèrement. Et à ce stade de l'enquête, c'est la piste du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants qui est privilégiée. Un phénomène qui a de nouveau pris de l'ampleur depuis le début de l'été à Marseille, où les territoires de ces trafics sont très disputés.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1 et le ministre de l'Intérieur a réagi et donné quelques précisions tout à l'heure. Écoutez, Gérald Darmanin.
Dans la nuit, Madame la préfète de police m'a informé effectivement de ces faits absolument inacceptables puisqu'ils mènent à la fois à la mort de jeunes hommes et évidemment aux blessures de familles qui ont pu être à proximité et puis de toute façon une terreur qui s'installe dans des quartiers dont on sait qu'ils sont la proie des trafiquants de drogue. A priori, il apparaît assez évident que la guerre des territoires, que des cités, je mets des guillemets, je ne confonds pas les habitants avec les trafiquants, peuvent se livrer pour récupérer des points de deal très rémunérateurs. Et sans doute une des raisons de ces attaques à main armée et qui touchent des jeunes, dont j'espère que les enquêtes pourront très rapidement permettre d'interpeller, comme le fait très régulièrement la police nationale, les auteurs.
Voilà, une guerre de territoire, dit Gérald Darmanin, qui était en visite à la gendarmerie de Gardanne aujourd'hui, justement, pas très loin de Marseille. Sur le front des incendies dans le Var, c'est un espoir prudent que les autorités expriment après une nuit où le feu n'a plus progressé à la faveur des conditions météo, puisque le vent s'est calmé et que les températures ont rafraîchi. Mais attention, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Caroline Baudry, vous êtes notre envoyée spéciale au poste de commandement du Luc et les pompiers restent extrêmement attentifs.
Oui, pour stopper d'éventuels départs de feu qui pourraient, comme hier, arriver avec le vent dans l'après-midi. Bernard Schifano est un sapeur-pompier venu ce matin des Bouches-du-Rhône. Il a briefé ses équipes carte à la main.
On va traverser pour aller jusqu'à cette route, ok ?
D'accord.
Là où on peut rentrer dans le verre, on le fait.
Ouais. Avant de se rendre jusqu'à demain matin sur les zones les plus à risque.
Qui est l'arrière gauche du feu, qui est un secteur qui est très sensible. Et le vent d'est qui va se lever après-midi, ben ça va le pousser bien sûr dans le massif qui est encore vert. Notre objectif, c'est d'éviter que le feu remonte vers Vidauban, enfin vers le Luc, Vidauban, et bien sûr faire du noyage pour éviter les reprises, toujours pareil.
Sur les 1109 pompiers mobilisés, deux tiers viennent de 19 autres départements relayer leurs collègues épuisés.
Ça fait partie de nos gènes, mais c'est une logique. Depuis tout temps, on est venu aider les Varois sont venus nous aider, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, voilà, il faut être là.
Et là, pour atteindre l'objectif, éteindre tous les points chauds en bordure de feu et pouvoir ce soir, enfin, déclarer l'incendie fixé.
Caroline Baudry dans le Var pour Europe 1 et un peu plus au sud, où les flammes ne menacent plus. 1300 vacanciers ont pu regagner leur camping hier soir dans le village de La Mole. Vous êtes en train de vous y habituer, il faut bien, il n'est plus question de sortir sans son pass sanitaire, que ce soit pour aller au restaurant, au cinéma et même parfois au centre commercial. Et même lorsque vous allez régulièrement au même café, que vous êtes un habitué au comptoir, eh bien la règle reste le contrôle systématique. D'où l'idée du département de la Gironde qui propose à partir d'aujourd'hui un bracelet dans les bars et dans les restaurants. Stéphane Place, vous êtes à Bordeaux. Expliquez-nous à quoi va servir ce bracelet.
Oui, c'est une initiative de l'Union des restaurateurs et hôteliers du département. Sont distribués ici ces premiers bracelets blancs en tissu ce matin. Une inscription passe sanitaire en gros caractères et bien entendu des conditions très claires pour, en tant que client, obtenir ce précieux sésame, comme l'explique Laurent Tournier, le président de l'UMI 33.
C'est des bracelets en tissu qu'une fois qu'on a posé au poignet une première fois, on ne peut pas sortir, donc on ne peut pas échanger, on ne peut pas donner à quelqu'un, voilà, et qu'on conserve, hein, on peut le garder un mois si on veut. Voilà. Et le restaurateur qui va la poser à la personne, donc il aura contrôlé avec deux doses de vaccin et contrôlé l'identité. Et encore une fois, c'est sur la base du volontariat, donc c'est vraiment que les clients qui veulent le faire.
Plus simple évidemment que la présentation systématique du QR code à chaque fois que l'on s'assoit à une table de restaurant ou de café, ce dispositif de bracelet doit faciliter la vie des restaurateurs comme Hugo, qui dirige ici à Bordeaux El Nacional, un établissement qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 30% depuis l'instauration du pass sanitaire.
Aujourd'hui, à chaque client qui arrive, nous on doit contrôler le pass sanitaire. Même si le client est venu à midi, le soir il faut contrôler encore une fois. On imagine qu'avec les bracelets ça peut être un peu plus facile.
Les premiers bracelets, Sébastien, vont être distribués à l'occasion de ce service qui débute tout juste ici, dans ce restaurant.
Stéphane Place à Bordeaux, bon appétit à vous. Le professeur Didier Raoud va-t-il être poussé vers la sortie de son propre institut, l'IHU Méditerranée, qu'il a créé et qu'il dirige? Après les polémiques à répétition et ses déclarations controversées depuis le début de la pandémie, les partenaires de son institut, le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ou encore le président de l'université vont proposer au conseil d'administration de ne pas renouveler son mandat de directeur, information révélée par le journal Le Monde. On y revient dans le journal de 13h. Aux États-Unis, les Américains vont recevoir à partir du 20 septembre une troisième dose de vaccin Moderna ou Pfizer, un rappel destiné à mieux protéger contre les nouveaux variants. Le président américain Joe Biden, lui, s'est exprimé la nuit dernière sur la situation en Afghanistan. Il a accordé une interview à la chaîne ABC et s'est notamment justifié sur sa décision de retirer les troupes américaines du pays. Écoutez.
Donc vous ne pensez pas que le retrait des troupes aurait pu être mieux géré? Il n'y a pas eu d'erreur?
Non, je ne pense pas que cela aurait pu être géré d'une manière qui... On reviendra en arrière et on regardera, mais l'idée que d'une manière ou d'une autre, il existe un moyen de s'en sortir sans que le chaos ne s'en suive, je ne sais pas comment c'est possible, comment ça aurait pu être possible.
Donc pour vous, cela a toujours été pris en compte dans la décision?
Oui.
Joe Biden qui a aussi laissé ouverte la possibilité que les troupes américaines puissent finalement rester un peu plus au-delà de la date du 31 août qui était prévue et cela pour sécuriser les évacuations en cours. La France, elle aussi, avait envoyé des soldats sur le sol afghan après les attentats du 11 septembre. Les troupes françaises sont restées jusqu'en 2012 et 90 de nos soldats y ont laissé la vie. Écoutez ce témoignage européen de la mère de l'un d'eux, le lieutenant Valérie Tolly, tué le 7 septembre 2011 au cours d'une attaque orchestré par les talibans. Écoutez ce que sa mère dit de la situation d'aujourd'hui.
J'ai vraiment réalisé que mon fils, il n'était pas mort pour rien et que ce qu'il avait fait avec ses compagnons, c'était protéger une population. Quand mon fils est mort, j'ai pensé qu'il était mort pour rien. Je sais maintenant, je suis convaincue qu'il n'est pas mort pour rien.
En cela, vous avez un regard différent d'autres familles de soldats morts en Afghanistan?
Je veux dire qu'il y a quand même des gens qui s'en sont sortis, il y en a qui ont vécu, il y a des filles qui ont été instruites pendant 10 ans, il y a des femmes qui passaient à la télé, il y avait une avancée sociale. Tous ces soldats, tous ces pays qui étaient là, ils ont soutenu, ils ont aidé, ils ont permis une avancée. Ils ont aussi permis peut-être que des gens, avec la protection des forces armées, d'avoir goûté à cette liberté, peut-être que ça va les mobiliser et qu'ils vont réussir à faire quelque chose pour s'en sortir. Enfin, j'ai mal pour les gens qui pensent que leur enfant était mort pour rien. J'y ai cru qu'il était mort pour rien. Après, avec le recul, la douleur passée et puis les idées refroidies, je suis fière de mon fils, très fière. Il est allé pour être utile et je suis fière de lui pour ça.
Le témoignage de Patricia Burli-Rabani, recueilli par Arthur Mbaché. Hier soir, un avion de l'armée de l'air s'est posé à Roissy, transportant plus de 200 passagers, dont une large majorité d'Afghans exfiltrés de Kaboul. Les rotations continuent. L'accueil des réfugiés, justement, le sujet va forcément occuper une partie des débats des écologistes qui ouvrent leur journée d'été à Poitiers. Aujourd'hui, c'est l'événement politique du jour. 3000 personnes y sont attendues, et notamment les 5 candidats à la primaire qu'Europe Écologie Les Verts organise au mois de septembre. Écoutez le secrétaire national du mouvement, Julien Bayou.
On a un projet partagé, on a une famille cohérente, on est heureux de se retrouver et on va pouvoir départager dans une primaire la personne qui va nous représenter pour la présidentielle, et cette fois-ci on y va pour gagner.
Alors on sait que les primaires ont souvent été source de discorde, de tension dans plusieurs partis, y compris chez les Verts. Qu'est-ce qui nous dit que cette année ça va bien se passer ?
Mais la différence c'est que là on y va pour gagner, c'est-à-dire que tout le monde a bien le sentiment... Vous voyez les incendies dans le Var, 7000 hectares, l'été meurtrier, l'urgence aussi de remplacer Emmanuel Macron qui finit par abîmer le pays et le brusquer. Et donc il y a cette responsabilité qui pèse lourdement sur les épaules et qui amène au sérieux. Et donc on aura des échanges, il y a des candidats et candidates qui ont des personnalités différentes, mais je suis convaincu que nous saurons nous rassembler et proposer une alternative au pays. Aujourd'hui nous sommes au pouvoir dans des grandes villes et on a le sentiment d'urgence. Et la population attend du changement, nous serons au rendez-vous.
Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il répondait à Charles Guyard à Poitiers. La rentrée des classes. Et voici une nouvelle façon de faire des économies dans l'achat des fournitures scolaires. Une manière aussi de consommer plus responsable, puisqu'il s'agit d'acheter d'occasion des fournitures de seconde main, des cartables par exemple. C'est le choix que font de plus en plus de familles, Aurélien Fleureau.
Oui, c'est le cas de Justine, mère de 3 enfants. C'est mieux pour la planète, dit-elle, et c'est aussi mieux pour son budget, que ce soit pour les fournitures ou les vêtements.
J'ai commandé des lots, parce qu'on peut aussi commander des lots de vêtements. L'économie est grande, hein. Par exemple, pour ma fille de 12 ans, j'ai un lot avec des affaires Levi's que j'ai payé 7 euros. Sur les 3 enfants, niveau budget vêtements, j'ai fait une économie d'au moins 200 euros.
Justine fait partie des 200 000 parents inscrits sur la plateforme Bibs, qui ne vend que des articles de seconde main, par exemple un cartable à 8 euros, soit 3 fois moins cher, dans un état souvent quasi neuf parce que peu ou pas utilisé, comme l'explique Morgan Ilmi, cofondateur de l'application.
Aujourd'hui sur Bibs, vous avez 80% des articles qui sont vendus qui sont soit neufs, soit en très bon état. Ça illustre qu'en fait, de manière générale, quand on est parent, on dépense beaucoup et puis parfois on achète des articles qui malheureusement ne servent pas. Et ces articles, ils ont quand même une valeur et on va essayer de récupérer du pouvoir d'achat en les revendant en seconde main.
Et puis, il existe de plus en plus de marques responsables comme EcoBureau, Esprit Recycle ou encore Coq en Pâte qui, elles, misent sur le recyclage et le fabriquer en France.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. On en vient à l'actualité sportive à présent avec cette toute nouvelle Coupe d'Europe. Alors, vous connaissiez la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Bien, voici la Ligue Europa Conférence. C'est dans cette nouvelle compétition que Rennes fait son entrée ce soir en match de barrage aller. Les Rennais reçoivent le club norvégien de Rosenborg à 20h. Cédric Chasseur, expliquez-nous en quoi consiste cette nouvelle Coupe. Pourquoi l'UEFA en crée une troisième ?
Eh bien, l'objectif affiché, c'est de rendre les compétitions plus inclusives, donner la chance à des nations supposées moins fortes de voir leurs représentants vivre le frisson des soirées européennes. Et c'est pourquoi Rennes se retrouve à partir de ce soir aux côtés de Tottenham, de l'AS Roma, mais aussi des Lettons du Riga FC, des Irlandais du Shamrock Rovers ou des Chypriotes de l'Anorthosis Famagouste. Si sur le papier, ça ne fait pas forcément rêver, en effet, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, n'entend pas prendre cette compétition à la légère.
Lorsqu'on regarde déjà le tableau de ce play-off, il y a des grandes équipes et il y aura lors des phases de groupe une compétition relevée qui est plus pour moi une Europa League bis qu'une Coupe d'Europe au rabais. Donc c'est une vraie Coupe d'Europe et pour les joueurs c'est toujours plus intéressant d'avoir des matchs comme ça à disputer, même si on joue tous les 3 jours, plutôt que d'avoir un seul match par semaine.
Alors le format de la compétition, lui, est bien connu. Des barrages, 32 équipes qualifiées pour des phases de poule, 8 groupes. C'est après que ça se complique. Les premiers iront directement en 8e de finale. Les deuxièmes, eux, joueront encore un barrage face au 3e de poule de Ligue Europa.
Puis il y aura les quarts,
les demi, la finale le 25 mai à l'Arena Nationale de Tirana. en Albanie.
Voilà, une troisième Coupe d'Europe et donc une troisième finale. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. Et puis un mot de tennis pour vous dire que Gaël Monfils s'est qualifié cette nuit pour le troisième tour du tournoi de Cincinnati, inscrivant au passage une 500e victoire à son compteur. Zverev, Tsitsipas, Medvedev continuent aussi. Pour Andy Murray, en revanche, c'est terminé. Et dans le tableau féminin, Caroline Garcia a été éliminée. Le temps, Marlène Duré, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Ambiance nuageuse, sauf toujours dans le sud-est.
Et oui, comme hier, la moitié nord du pays et la Nouvelle-Aquitaine se sont réveillées sous les nuages. Alors le soleil percera timidement cet après-midi, sauf dans quelques régions, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le nord de l'Alsace et de la Bourgogne. On y attend encore quelques petites pluies. Et puis aussi de la Bretagne à la Normandie, où on a une petite perturbation qui tente d'entrer dans le pays, avec là aussi quelques gouttes. Donc pour trouver le soleil, direction le sud-est en effet. On a de belles éclaircies qui vont finir par s'imposer entre le midi toulousain, l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes. Ciel bleu en poursuivant vers la Méditerranée et l'île de Beauté. Le Mistral qui semble résister un petit peu, mais il faiblit nettement. Et puis attention aux orages sur le relief corse. Ils sont isolés, mais peuvent être assez forts. Et puis aussi sur les sommets pyrénéens. Côté température, les maximales varient de 19 à 25 degrés sur la moitié nord et en Nouvelle-Aquitaine. Avec par exemple 19 à Dieppe, 22 à Rochefort, Paris et Reims. Ailleurs, comptez 22 à 28, jusqu'à 29 à 33 près de la Méditerranée. On notera par exemple 25 à Annecy, 28 à Carcassonne ou encore 33 degrés au cœur de la Provence, à Istres par exemple.
Marlène Duré, merci.
Europe Midi, Sébastien Krebs.
Midi 46 sur Europe 1. Dans quelques secondes, nous retournons dans le Var pour tenter de mesurer l'ampleur des dégâts dans le massif des Maures après l'incendie dans cette réserve naturelle qui abrite des espèces protégées. Deux invités pour en parler avec moi. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est midi 48 sur Europe 1. C'est une journée décisive sur le front de l'incendie dans le Var, a précisé ce matin le préfet du département. Oui, parce qu'on vous le disait dans le journal, le vent a faibli et les pompiers ont enfin bon espoir de pouvoir maîtriser le feu, mais il reste extrêmement attentif et les dégâts sont déjà considérables dans cette réserve naturelle des Maures. On a choisi le temps de s'arrêter sur les conséquences aujourd'hui sur la faune et sur la flore avec deux invités. Et d'abord Jean-Louis Pestour, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'Agence de défense des forêts contre les incendies. Vous êtes aussi responsable national incendie de forêt à l'Office national des forêts, l'ONF, qui gère justement ces espaces. De ce que je ne sais pas, est-ce que vous avez pu, vous, aller sur place? Que savez-vous de l'ampleur des dégâts dans les zones qui ont été touchées par les flammes?
Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de me rendre sur place et constater l'étendue des dégâts. Donc c'est vrai que les terrains qui ont été parcourus par l'incendie sont en grande partie des terrains des forêts privées, hein, qui appartiennent à des particuliers. Et il y a à peu près une quinzaine de pourcents de forêts publiques, donc de forêts communales et forêts domaniales, qui sont directement gérées par l'ONF. Et voilà, sur ces espaces, voilà, nous sommes un peu dévastés par l'étendue des dégâts et voilà, et nous sommes en réflexion sur ce qu'on va bien pouvoir faire par la suite sur ces secteurs-là.
Ouais, plus de 6000 hectares de forêts ont brûlé. Quel va être votre travail là, dans les jours, dans les semaines qui viennent?
Donc nous, le principe après un incendie, c'est évidemment de ne pas se précipiter, parce qu'en fait, en fonction de la nature des espèces présentes sur le terrain et de l'intensité du feu, certaines espèces vont pouvoir soit se régénérer, soit repartir à partir de leur souche ou de la base de l'arbre. Donc on est dans une phase de réflexion, d'étude, d'expertise de ce qui va se passer et comment la nature va réagir suite à ce sinistre.
Vous restez avec nous, Jean-Louis Pestour, on va parler justement de ce sujet, comment faire repartir et reboiser ce massif. J'accueille la deuxième invitée d'Europe Midi. Bonjour Concha Agero.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous êtes la directrice interrégionale adjointe de l'Office français de la biodiversité dans cette région. Vous aussi, vous avez pu vous approcher des zones sinistrées. Quel est le paysage dans le massif des Maures?
Bah écoutez, je reviens d'une visite sur des zones incendiées en plein cœur de la réserve naturelle de la plaine des Maures. Le paysage est vraiment lunaire, hein. Alors, dans notre malheur, on a la chance d'avoir des poches de végétation verte qui ont été sauvegardées parce que le feu est passé tellement rapidement sur ce secteur qu'il a eu d'énormes fautes, donc parfois jusqu'à 300-400 mètres. Donc on a encore des petits îlots refuges pour la faune. Et d'ailleurs, là sur le terrain, nous avons trouvé trois tortues vivantes avec les équipes de bénévoles du SEMPACA et de la SOPTOM et l'équipe gestionnaire de la réserve naturelle, et ce qui est assez rassurant car en fait, comme précédemment il faisait très très chaud, les tortues étaient déjà abritées sous les rochers, elles étaient déjà enfouies pour se protéger de la chaleur. Donc ça leur a permis aussi de se protéger du feu.
Ouais, donc c'est assez encourageant parce qu'on parle effectivement de cette tortue d'Hermann qui est une espèce extrêmement rare, qui est très spécifique à cette zone.
Tout à fait. En fait, la tortue d'Hermann est la dernière tortue terrestre sauvage qu'on trouve en Europe. On ne la trouve que dans deux coins, c'est dans le Var et dans la plaine et le massif des Maures. Mais aussi, on la trouve en Corse. Les plus fortes populations, les noyaux de densité de tortue d'Hermann étaient vraiment localisés dans cette réserve naturelle. C'est pour cela qu'elle a été créée, pour protéger cette espèce. Et aujourd'hui, avec l'incendie, malheureusement, c'est son habitat qui a disparu. Donc même si aujourd'hui on trouve encore des tortues vivantes, il va leur falloir un certain temps de réadaptation à ce nouvel habitat qui n'est plus celui qu'elle a connu.
Est-ce qu'il y a un risque pour la préservation de cette espèce et d'autres espèces ?
Bien sûr, alors il y a un risque pour la tortue d'Hermann, qui est vraiment un féodé à ce milieu naturel en mosaïque. Aujourd'hui, ce milieu en mosaïque est devenu complètement monotone, hein, c'est de la terre brûlée. Mais aussi d'autres espèces, parce que la tortue d'Hermann, on la considère comme une espèce parapluie. Et avec cette espèce protégée, avec la protection de son habitat, on a aussi la protection de l'habitat de beaucoup d'autres espèces, qu'elles soient végétales ou animales. Autant sur les oiseaux, notamment les oiseaux macro-insectivores, donc les guêpiers, les rouliers, les pigriages, mais également les insectes, les chauves-souris. On a d'autres reptiles, comme les couleuvres, et aussi le lézard osselet, le lézard vert. Donc c'est tout un cortège animal qui est protégé grâce à la tortue, et aussi au niveau de la végétation qui est un féodé à ce milieu très aride en été, très très sec, et très humide, très détrempé en hiver. Donc on a une végétation à féodé à ces milieux humides temporaires qu'on ne trouve qu'ici dans le Var et qu'ici en France.
Un tiers de la réserve naturelle des Maures a brûlé, je le disais, plus de 6000 hectares. Qu'allez-vous faire?
Excusez-moi, je vous coupe. Aujourd'hui, on en est au 4/5e de la réserve naturelle.
4/5e.
Oui, tout à fait. Le feu a progressé fortement dans la nuit d'avant-hier et encore hier toute la journée dans les secteurs de Vidauban, dans les belles pinèdes à Pin-Parasol. Et aujourd'hui, on est au 4/5e.
Oui, donc c'est colossal et ça veut dire qu'il y a énormément de vies qui ont été perdues, en tout cas de faune qui a disparu dans les flammes.
On l'estime. Encore une fois, on démarre à peine les prospections. Hein. Le feu n'est pas encore éteint et je tiens à saluer le courage et les efforts des soldats du feu pour nous aider dans cette lutte sur la préservation de l'environnement. Le feu n'est pas éteint. Nous n'avons pas encore démarré toutes les prospections. Donc, pour le moment, on présume beaucoup, on estime, on voit un petit peu.
Je reviens vers vous, Jean-Louis Pestour, vous qui êtes le responsable national incendie de forêt à l'ONF. Quelle est l'étape d'après ? Ensuite, combien de temps faut-il pour justement régénérer cet habitat, ces forêts et permettre à la faune de s'y réinstaller ?
Là, nous sommes en région méditerranéenne, donc la recolonisation va se faire de manière très très lente et la végétation va petit à petit se réinstaller. On est sur des pluies biométriques qui sont assez faibles, donc du coup le développement de la végétation va être assez lent. Là, on est parti pour un renouvellement sur 30-40 ans avant de pouvoir retrouver le même milieu qui sera forcément dégradé parce qu'en fait il aura subi un traumatisme important et si aussi le milieu n'est pas encore reparcouru par un feu, les essences vont pouvoir se régénérer, donc les pins en particulier vont pouvoir réensemencer le milieu, mais sous réserve qu'il n'y ait pas un incendie qui repasse dans les quelques années à venir.
Dans ces cas-là, on laisse la nature faire ou est-ce qu'il faut reboiser, replanter ?
enfin, la logique du reboisement qu'on a pu connaître au siècle dernier est actuellement abandonnée. On est vraiment sur une réflexion pour laisser faire la nature hâter son œuvre et faire en sorte que voilà que les végétaux en place se régénèrent de manière naturelle et qu'on accélère un peu cette régénération si besoin. Par éventuellement quelques plantations, mais dans des lieux très emblématiques où il y a des aspects paysagers ou environnementaux spécifiques, mais le fait de replanter n'est pas quelque chose que l'on préconise, surtout dans des secteurs méditerranéens qui sont là, très, très fragiles.
Laisser faire la nature et laisser faire le temps, vous le disiez, 30 ou 40 ans, est-ce qu'il y a de nouvelles précautions à prendre? On sait que les sécheresses se font de plus en plus fréquentes et avec elles les incendies.
Ben oui, évidemment, nous, on essaie de sensibiliser nos concitoyens. On a un rôle de prévention, de surveillance qui est important en amont des feux. Et on s'aperçoit aussi que sur ce feu, on soupçonne un mégot de cigarette comme de nombreux feux au cours de cette saison. Donc il faut rappeler à tous nos concitoyens qu'un mégot de cigarette, c'est un point chaud qui, dans les conditions de sécheresse qu'on connaît, avec le vent qui peut parfois être soufflé en rafale et de manière significative, voilà, ça peut être le point de départ d'un feu qui, on le voit, entraîne des conséquences assez catastrophiques, quoi. Donc il faut que chacun se rende compte que le moindre apport de chaleur en zone forestière ou en bordure de zone forestière peut être générateur d'un feu catastrophique,
quoi. Merci Jean-Louis Pestour d'avoir été avec nous pour l'Office national des forêts. Je remercie également Concha Agero, la directrice adjointe de l'Office français de la biodiversité dans la région PACA. Merci à tous les deux pour ce point sur les dégâts dans cette réserve des morts. Midi 58 sur Europe 1.